Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Les Rescapés, le podcast qui vous parle de ces gens qui ont vécu une déflagration dans leur vie, qui a signé la fin de leur vie d'avant et conditionné leur destin. Nos témoins sont des survivants. Ils auraient pu sombrer, mais la fracture qu'ils ont vécue a parfois donné du sens à leur vie ou révélé une partie d'eux-mêmes qui serait certainement restée endormie. Aussi difficile que fut l'épreuve, ils sont parvenus à voir la vie d'un œil neuf. Parce qu'on n'a qu'une seule vie, celle qu'on vit. Parce qu'on ne peut rien contre les épreuves. Comment gérer l'après? Comment vivre cette renaissance pour qu'elle ne soit pas une petite mort? N'oubliez pas, la vie a toujours plus d'imagination que nous.
Avant, j'étais un enfant heureux de vivre en famille dans un monde rural où tout le monde partageait la joie de vivre et le sens du travail. Et depuis le 6 octobre 1983, je suis un rescapé. Je m'appelle Jean-Yves Labrousse, j'ai 55 ans, j'habite Saint-Martin-Lieu dans l'Oise. Je suis un enfant introverti, un enfant de la campagne. Mes grands-parents sont agriculteurs, donc je passe beaucoup de temps avec eux. J'adore passer du temps avec eux. Et je regarde beaucoup les séries à l'époque de Michel Strogoff et je m'imagine, je me fais un monde imaginaire où je suis Michel Strogoff et je fais des aventures dans les bois qui sont autour de moi et dans les champs et je passe beaucoup, beaucoup de temps dehors. On est trois. Il y a Caroline, l'aînée. Moi, je suis au milieu et mon petit frère, Fabrice. Je suis un petit garçon curieux, introverti. C'est pas que j'ai peur des autres, mais je me plais bien dans ma famille, avec les animaux, tout ça. Et puis après, quand mon petit frère grandit, on joue beaucoup ensemble. Et puis j'ai quelques copains là autour, et franchement, ça me suffit. Je cours beaucoup dans les champs pour aider mon grand-père à amener les vaches le soir à la traite ou les porter au champ après la traite. Je vais sur les tracteurs avec mon grand-père. Ma grand-mère va me donner un jardin. Un petit morceau de jardin, ils ont un jardin qui fait 600 mètres carrés environ, et je vais avoir un petit bout où je vais pouvoir faire un bac à poissons, planter mes graines, voilà, ça me plaît beaucoup ça. Et mon papa est serrurier, ferronnier, chaudronnier, il travaille chez Massey Ferguson à Beauvais. Du fait que je suis multidis, j'ai découvert assez rapidement, le corps enseignant arrivé en CEP va se rendre compte que j'ai des freins à l'apprentissage et à la réalisation. Donc je suis dysorthographique, je suis dyscalculie, dyspraxique. Dyspraxie, c'est le côté gauche. C'est la coordination du mouvement. J'ai du mal à coordonner les mouvements à tel point que faire des lacets, je n'y arriverai qu'à 10 ans. M'habiller, c'est très compliqué aussi. Je vais y arriver pareil vers 10 ans. Donc du coup, pour ma famille, c'est une incompréhension parce que ce qui leur semble évident, pour moi, met un temps fou. Donc on se dit, je vois les questionnements. Est-ce que c'est de la paresse? Qu'est-ce qui se passe? Donc, en plus que le corps enseignant, ensuite, lui dise, ben, Jean-Yves, il n'arrive pas à écrire. Il sait pas reconnaître sa main gauche, sa main droite. Il reconnaît pas l'heure. Donc, c'est compliqué. En 1971, j'ai 3-4 ans. Et la maîtresse nous donne un dessin à faire. J'aime bien dessiner. Donc, voilà, je fais un dessin. Et là, je vois la maîtresse qui fustige. Je comprends pas ce qui se passe. Du coup, je dis, qu'est-ce qui se passe? Là, je vois la maîtresse qui montre mon dessin et qui me nomme et qui dit, regardez l'horrible dessin qu'a fait Jean-Yves Labrousse. Et là, je me comprends pas. Le ciel est en train de me tomber sur la tête. Et je comprends pas du tout. Je regarde les autres. Je suis hagard. Et du coup, elle me prend par la main, me traîne vers l'estrade. Et là, je me retrouve sur une chaise sur l'estrade. Et elle avait fait un bonnet d'âne en papier qu'elle me met sur la tête. Là, je regarde tous les autres, je me sens tout seul. Tous ces yeux qui me regardent, tels des aiguilles, hein, c'est, voilà. Et du coup, je comprends pas. Je me retrouve après dans un cours de récréation, je me fais bousculer, insulter. Et de là, les moqueries vont être incessantes. Et mes parents vont me retirer de l'école pendant un mois. C'est pas vivable. Donc, je vais finir l'année scolaire comme ça. Et maman va me changer d'école. C'est un élément très marquant. En fait, je suis content d'aller à l'école au départ. Je suis même curieux, j'ai envie d'apprendre. Et là, je me rends compte que, quelque part, l'école ne me veut pas. Que ce soit les élèves ou les enseignants, parce que j'essaie de lire les énoncés. Les consignes, j'essaie de les lire, mais je n'arrive pas à retranscrire. Je reste bloqué sur la consigne. Et puis après, les mots entre eux, je les comprends pas. Je finis par me sentir différent, à un tel point que je vais finir par tripler mon CEP. Et un jour, je dirai à ma sœur, me lavant les dents dans la salle de bain, je dirai: Caroline, tu crois pas que je suis extraterrestre? Parce que voilà, je me rends compte que je suis différent et que quelque part, à un moment donné, je suis toujours un peu la patate chaude. Et ça, quelque chose qui va durer tout au long de ma vie. Il arrive toujours un moment où les gens ne savent pas quoi faire de moi et ils sont plus ou moins polis. Et je comprends leur impatience, le fait qu'ils sont embêtés de fois de ma présence et ils ne savent pas quoi faire de moi. Et moi, du coup, en retour, je suis gêné de pas pouvoir répondre à leurs attentes. Et quand maman va être convoquée par les différentes institutrices dans les différentes écoles et que moi j'attends dehors et que je vois quand elle sort, elle pleure, je me dis que je suis méchant, je suis mauvais parce que je fais pleurer maman. Pour avancer, inconsciemment, je me rends compte beaucoup plus tard qu'en fait, je mets en place une méthode: ressentir les choses, les émotions. Et les émotions à l'instant T. Je comprendrai beaucoup plus tard, environ 40 ans plus tard, que c'est l'instant présent. Mais je vais mettre cette méthode-là en place pour, à l'instant présent, me réjouir du soleil, me réjouir du jardin que ma grand-mère m'a prêté et des plantes qui y poussent, me réjouir de voir les poissons dans les petites mares d'eau, me réjouir de voir un animal dans la forêt, me réjouir de courir. J'adore courir. Et à l'école, dans le sport, après plus tard au collège, c'est là que je vais exceller. Parce que, en fait, comme c'est très compliqué, j'ai triplé mon CEP, maman, elle se dit, Jean-Yves, il faut qu'il puisse faire quelque chose de sa vie quand même, qu'il puisse avancer, il ne va pas rester au CEP. Déjà que ça fait 3 ans que je redouble. Et elle va entendre parler d'une école privée dans laquelle on peut donner une seconde chance aux personnes. Du coup, elle m'en parle et je mets tous mes espoirs aussi dedans. Alors, on me fait des tests de positionnement, ce sont des tests où on évalue votre capacité, votre niveau scolaire. Et là, ça va être catastrophique. Convoqué donc chez la directrice avec la maîtresse et vu les résultats, vous devez refaire un CEP. Donc, ce ne sera pas triplé le CEP, ce sera quadruplé le CEP. Mais maman et moi, on est prêts à tout pour que je puisse avoir une scolarité dite normale. Donc, voilà, je vais rentrer au Saint-Esprit dans ce CEP. Là, la maîtresse a fait ce qu'elle peut. Elle se rend compte que j'ai vraiment des difficultés à apprendre. C'est pas que j'ai mis de la mauvaise volonté, mais c'est vraiment des difficultés. Du coup, elle va me prendre des soirs après les heures de cours jusqu'à 19h environ pour refaire ce qu'on a vu le jour. Réapprendre, réécrire, parce que j'ai des gros problèmes d'écriture et de déchiffrer les mots. D'arriver à lire, à faire des phrases, parce que j'arrive pas à faire des phrases. Et des fois, même lire les mots, c'est compliqué. Donc, on m'apprend syllabe par syllabe pour arriver à déchiffrer le mot. Alors, la maîtresse a fait ce qu'elle peut, là, ses méthodes de l'époque. Elle va me tirer les oreilles et m'appuyer le visage contre le tableau. Ouais. Le regard de ma famille, ils m'aiment tous, ils sont bienveillants, mais c'est la même chose. Il y a beaucoup d'incompréhension. Voilà, on ne sait pas ce que c'est que la dyslexie. Donc, là, je me sens très, très, très différent. Et du coup, le gros problème qui va se passer, c'est que à chaque fois, c'est la confiance en soi qui en prend un coup. Voilà, je suis un moins que rien. Et en plus, dans le village, voilà, ça va me coller à peau l'histoire de l'idiot du village. Donc, tout ça, mis bout à bout, fait que c'est vraiment, j'ai l'impression d'être nul, d'être idiot. Et en plus, quand à la ferme, je veux donner un coup de main, et ma dyspraxie fait que je fais un peu tout de travers. Et sur des notions qui leur semblent évidentes, je sais pas faire un nœud. J'ai envie d'écrire à l'époque même. Je me souviens avoir voulu écrire des histoires, mais du coup, comme je suis dyslexique et j'ai du mal à écrire les mots, quand je me relis, ça veut rien dire, mais il y a une réelle intention, une réelle motivation créative qui est refoulée parce que je suis pas content de ce que je fais. Je fais des avions, des bateaux, et j'ai beaucoup de plaisir à ça. À peindre minutieusement chaque pièce, elle est collée. Je suis curieux, même, je vais poser tout le temps des questions à papa, à maman, qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'est-ce que veut dire ce mot? Et du coup, papa, il y a un secrétaire à l'étage et un bureau et il va me parler de l'histoire. Il va me parler des Grecs, des Romains, des Égyptiens. Voilà. Ça va me faire rêver. Et surtout, il prend le temps de me le dire, de me le répéter et ça me va bien. Voilà, j'ai le temps de comprendre. Et papa, il joue la musique, il a une guitare sèche andalouse. Et du coup, j'adore l'écouter jouer. Il me parle aussi de la musique. Il me parle des groupes qu'il avait quand il était jeune, les groupes de rock, des choses comme ça. Bien sûr, le dessin, par la suite, je vais peut-être vouloir montrer que je sais dessiner. Et je vais aimer dessiner des paysages. Voilà, beaucoup de paysages. Il y a deux choses dans lesquelles j'excelle. C'est le côté artistique. Je n'ai pas forcément conscience. J'aime ça. J'aime ça. Et moi, je vois mon papa créer des choses. Je l'ai vu dessiner les croquis. Donc c'est quelque chose que je vois faire. Oui, c'est quelque chose qui est assez... C'est une qualité que j'ai naturellement, bien sûr. J'arrive au collège comme ça, donc je vais découvrir l'histoire-géographie. Quelque part, peut-être que l'idiot du village me colle moins à la peau, mais le dernier, la classe, oui, bien sûr. Et la question se pose de ce qu'on va faire de moi. Ma maman lui dit qu'il faut que j'aille au CIO pour que je puisse voir un peu quelles sont les éventualités après l'école. Parce qu'en sixième, on se rend compte que je ne vais pas pouvoir aller très très loin. Même si je suis très volontaire, même si je donne beaucoup de moi. Je vais au CIO et là, je suis accueilli et je crois qu'il y a aussi des tests. Et là, on va me dire, monsieur, vu votre niveau, vu votre profil, la seule chose où vous puissiez exceller, c'est dans les travaux publics à casser des cailloux. Donc, le sol se dérobe un peu sous mes pieds, là. C'est marrant parce qu'à cette époque-là, je fais beaucoup des rêves où je tombe. J'ai même mal dans mes rêves, c'est bizarre. Et là, je me dis, c'est pas possible parce que je vois que j'ai une appétence pour un esprit créatif, qu'il y ait des choses dans lesquelles j'ai des facultés, et des aisances. Et je me dis que c'est pas possible. Je n'ignore pas les métiers du travaux publics, c'est pas du tout ça. Mais en fait, il faut que ça fasse sens. Et ça fait pas sens pour moi. À un moment donné, je me suis dit, tiens, la ferme, pourquoi pas, parce que j'aime bien, avec mon grand-père, travailler, mais on me dit que c'est pas pour moi, parce que je suis trop gauche, parce que c'est pas possible. En sixième, papa, il me dit, Jean-Yves, il y a un voyage, c'est un mois en Grèce, vous partez en car de Beauvais, vous traversez toute l'Italie, et là, vous prenez le ferry à Brindisi, et là, ça a été merveilleux. Ouais, j'ai 15 ans, je suis en cinquième. Ça va être magnifique parce que en fait, ça va être un peu l'école de la vie. Les premiers flirts, première rencontre avec des filles, ça se passe super bien. Je découvre encore plus l'Italie, le sud de l'Italie qui est très différent. On a la possibilité d'une certaine autonomie où les moniteurs encadrants nous donnent un budget. Alors on est scindé en deux groupes, il y a une équipe qui va faire la course dans les marchés et une autre équipe qui fait à manger. J'ai même fait à manger, on fait coller les riz, mais c'est très drôle. Et franchement, j'ai vraiment adoré ce passage-là. Quand je rencontre le petit ami de Caroline, qui s'appelle Pascal, je le trouve très sympathique. Il est jovial, drôle, on joue ensemble, ça se passe bien. Comme on aime le modélisme, on va construire ensemble, sur une grande planche de 2 mètres à peu près, un train électrique. On va faire nos collines nous-mêmes, tout ça, enfin, ça va vraiment être sympa. Lui, il est apprenti boucher-charcutier. Au départ, il travaille sur Paris, après, il se retrouve au chômage, papa-maman lui trouve un travail à la boucherie du village. Et du coup, assez rapidement, il va venir vivre à la maison. Et là, il est envahissant, en fait. Au départ, il est très sympathique et très vite, il prend ses aises, il manque de respect. Et papa, ce qui l'énerve, c'est que, en plus, il participe pas trop à la vie. Il se prend un peu comme s'il était à l'hôtel. Et ça plaît pas à papa. Du coup, il y a un peu des conflits entre papa et maman et puis ce garçon. Et on arrive donc à l'été 83. On part en vacances. Lui, il vient pas avec nous. C'est très tendu entre lui et ma sœur. Et ma sœur rencontre quelqu'un pendant les vacances. C'est des vacances formidables. On est dans le Gard, dans un camping. Papa et maman vont beaucoup en camping et ça me plaît bien. Parce qu'en plus, je rencontre des copines, alors ça me va bien. Caroline m'accepte dans son groupe de plus grand. Elle a eu 19 ans au mois de juin. Donc du coup, je suis très heureux. Je deviens un grand. Hein? Du coup, je suis plus idiot non plus. Pour une fois, on m'accepte dans un groupe sans se moquer de moi. Et du coup, je bois mes premiers verres, des trucs comme ça. On joue un peu à des jeux un peu fous. C'est très, très léger. Voilà. En rentrant de vacances, Caroline, elle se rend compte qu'il y a une rupture sans que Pascal le sache. Mais du coup, elle va lui annoncer au mois d'octobre que c'est fini. Et du coup, il va devenir agressif. Je saurai plus tard, mais il va devenir agressif avec elle. D'ailleurs, lors d'un repas, avant qu'elle le quitte, elle dit quelque chose qui ne lui plaît pas. En gros, il considère qu'elle n'a pas le lieu de s'exprimer sur un sujet. Et il la gifle devant tout le monde. Donc là, ça passe pas très bien. Moi, entre-temps, je vais faire un stage pour découvrir le métier de coiffeur. Parce que l'école, c'est toujours très compliqué. Et que je sens que, et ma maman le sent aussi, que ça serait bien d'anticiper. Ma maman trouve un, par des connaissances, un salon de coiffure mixte qui veut bien m'accompagner pour découvrir. Avant l'apprentissage, c'est découvrir déjà, est-ce que ça me plairait? Donc, je vais passer 3 jours. Les 2 premiers jours, j'observe. Et le 3e jour, je fais les shampoings. Et en fait, le fait que je suis dyspraxique, c'est compliqué. Je vais mettre de l'eau dans les oreilles. Je vais éclabousser un peu le visage de la dame. La dame va s'exclamer et va dire qu'est-ce que ça veut dire. Et pour moi, c'est un échec. Quand on me demande de rouler du papier à permanente, même en indirect, donc à sec et après on met le produit, je déchire les papiers et je vois la part de mon maître de stage, une sorte de désolation quelque part. Ce stage est donc le 5 octobre 1983. Je rentre avec maman. Avant de rentrer avec maman, je sors du salon de coiffure. Il fait beau. Belle journée d'octobre. Et je suis triste parce que ma journée s'est pas bien passée et que je suis déçu d'avoir déçu. C'est pas la première fois. Donc, je sors dans la rue. Et là, dans la rue, il y a du monde. C'est un peu estival. Et du coup, ça me remonte le moral. Donc, je vais voir maman et je lui dis que la journée s'est bien passée. Voilà. Je l'ai fait assez pleurer comme ça. Et au contraire, j'arrive à avoir un sourire. Je vois un peu de soulagement. Elle s'imagine, ah, enfin, quelque chose dans lequel il va pouvoir peut-être pas performer, mais être à l'aise, s'exprimer. Et puis, s'insérer. Donc, ensuite, il y a un client qui arrive. Donc, maman reprend son rôle de démonstratrice en parfumerie. Et ma grand-mère travaille dans la papeterie, elle est vendeuse en papeterie, dans un commerce un peu plus loin, dans le centre-ville. Du coup, je vais continuer ma balade dans la ville. Et en même temps, je sais qu'il y a Denise, qui est une collègue à ma grand-mère, qui est une jeune femme forcément agréable. Et je me gêne rien, mais j'aime bien son sourire. Et du coup, ça fait du bien. Quand on a passé une mauvaise journée, quelqu'un vous dit bonjour, vous fait un joli sourire. Du coup, voilà, c'est plutôt agréable. Le prétexte, c'est de voir Mémé, mais surtout de voir le joli sourire de Denise. Et du coup, maman sort, je monte avec elle et on rentre à Saint-Martin-le-Neu. Quand on arrive à la maison, la grille est ouverte. Il y a Fabrice et Pascal qui nous attendent sur le côté de la descente de garage. Et Fabrice nous fait un signe de la main, il est très content. Mon petit frère, qui a 12 ans, je suis content de voir mon frère sourire, mais je ne comprends pas pourquoi Pascal est là. Parce que ma sœur a rompu avec lui depuis quelques jours. Et franchement, je ne comprends pas. Maman même ne comprend pas. Et du coup, il y a ma sœur Caroline qui dit « Mais maman, Pascal est venu passer un petit moment avec nous. » Et il s'est proposé de faire à manger. Papa, il est en train de bricoler dans le garage, il fait de la soudure. Maman, elle se dit, c'est bien, Caroline, lui vend comme ça, ça va te soulager. Ce soir, t'as rien à faire, tu peux profiter de ta soirée, d'être ensemble. Donc du coup, ça marche, on le prend comme ça. On met la table, on veut mettre une assiette pour Pascal. Pascal se dédouane en disant qu'en fait, il a d'autres engagements. Il ne mangera pas avec nous. Pascal nous prépare un hachis parmentier. Ça sent bon à la maison, ça sent bon le hachis parmentier. Et du coup, on passe à table et il ne reste pas avec nous, il décline l'invitation. Le repas se passe bien, on fait des échanges sur notre journée. Je dis que j'ai vu une manifestation. Première fois que je vois une manifestation, j'étais assez intrigué. Et puis, je surjoue un peu ma journée, dire que tout s'est bien passé, que c'était formidable, que le maître d'apprentissage était heureux de moi. Pendant le repas, tout se passe bien, c'est convivial. Et j'ai pas de notion du temps, mais assez rapidement, papa est pris de malaise et ça lui ressemble pas. Papa, c'est une force de la nature, c'est quelqu'un de très puissant, mais très gentil en même temps. Très gentil, franchement, il donnerait sa chemise. Et du coup, je sais pas pourquoi maman dit ça, mais maman dit « Pascal nous a drogués ». Et là, c'est un peu la panique et surtout que papa, c'est un gros mangeur. C'est ça aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, il mange 3 fois ce que nous, on mange. C'est ça. À l'époque, je mange pas beaucoup. Sur le coup, nous, on n'est pas pris de malaise, mais assez vite, on est fatigué. On est fatigué, on éprouve le besoin d'aller se coucher. Donc, on va se coucher. Et je sens ma maman inquiète. Et puis, dans la nuit, j'essaie de me réveiller. J'entends maman qui crie. J'entends la voix de ma grand-mère qui crie. Je comprends pas pourquoi ma grand-mère est là. Hein, c'est la nuit, elle est là, pourquoi? Je suis entre le sommeil et le réveil. Hein. Mon cerveau est très engourdi du fait de la drogue qui a été mise, je serai beaucoup plus tard, du somnifère qui a été mis dans le hachis parmentier. Par Pascal Dolic. Et j'essaie de me réveiller. Mais je me sens un peu prisonnier de mon corps. Donc, j'arrive à un moment donné à me réveiller. Je dors dans la même chambre que mon frère. On a 2 lits séparés. Donc, il fait nuit. Dans mon semi-réveil, j'entendais de l'agitation. J'entends dire, il est rentré par le haut. J'entends une porte claquer. Il est descendu, couper le courant. Et des cris. Et quand je me réveille, quand je réussis à me lever et être plus conscient, c'est le noir total partout. Pas de lumière. J'arrive dans le couloir, j'entends un souffle bestial. Et là, je me fais agresser. Je me fais poignarder à l'abdomen. J'encaisse le coup et je vacille, je me penche contre le mur, ce qui va m'éviter d'avoir une blessure mortelle. Hein, parce que j'ai plusieurs coups de couteau. Et du coup, par le choc, basculer sur le côté. Et puis peut-être que le somnifère refait encore effet et la somme des deux fait que je perds l'équilibre. Je me perds sur le côté et je vais juste toucher à la cuisse, donc à l'abdomen et à la cuisse. Mais j'ai pas conscience de la gravité de ma blessure. J'ai pas conscience. Ça pique, voilà. J'entends une respiration vraiment bestiale. Donc du coup, je vais tomber, je vais m'évanouir. Et quand je me réveille, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de mettre en sécurité. Et où je pense me mettre en sécurité, c'est monter à l'étage, sous le bureau, là où papa me donnait des cours d'histoire, où j'écoutais la musique. Donc je vais me mettre sous le bureau, je vais tirer la chaise vers moi. Et parce qu'il faut aller très vite, j'ai peur, j'ai mal, je perds du sang. Et très vite, je vais entendre ma famille se faire massacrer, les uns après les autres. Là, dans un premier temps, j'entends une voix féminine et j'entends une voix que je connais, que j'ai entendue quotidiennement. Et il dit, il est où ton frère? Il est où? Dis-moi où il est. Et j'entends, ça tape, ça tape, ça tape. Et ma sœur qui lui dit, je sais pas, d'entendre ma sœur souffrir, je le vois pas, mais c'est comme dans les films d'Hitchcock, des fois quand on le voit pas, c'est pire que ce qu'on peut voir. Et je peux pas bouger. Je suis tétanisé et j'ai pas conscience de ma blessure, mais je peux pas bouger parce que je suis gravement blessé aussi. Je vais m'assoupir, m'évanouir. Et quand je me réveille, il n'y a plus rien. Je vais avancer un peu plus loin dans les combles. Les combles ne sont pas finis d'aménager. Et je vais ramper dans un petit endroit. Parce que je lui dis, s'il revient, si jamais il m'avait vu, tout ça. Et là, je vais m'évanouir encore. Et là, je me réveille, je sens la fumée. Je sens la fumée. La fumée devient de plus en plus épaisse. Et je me dis, il ne faut pas que je reste là. Parce que j'ai du mal à respirer, je suffoque. Donc, je descends. Il y a un instinct de survie, ouais. Je descends les escaliers et je me dis qu'il faut pas rester là. Et là, quand je descends les escaliers, il y a du feu. Et c'est très chaud, là. Je suis très désorienté par ce que je vois. Je vais être obligé d'enjamber le corps de mon petit frère qui est dans le couloir. Donc, je me dis qu'il faut que je sorte parce que c'est pas vivable. Il y a trop d'horreur. Et là, je suis sur le balcon. Un pavillon des années 70. Il y a un balcon. Et je me dis que assez vite, je peux pas ouvrir la grille parce que ça va faire du bruit. Donc, j'enjambe la grille. J'avais l'habitude d'enjamber la grille et de sauter. La grille fait 2 mètres de haut, à peu près. Je saute et je me rends compte que j'ai un problème au ventre, que j'ai les viscères qui sont sortis de mon ventre. Ça fait mal. J'ai de soutenir avec ma main. La seule solution, c'est de trouver de l'aide, à chercher de l'aide. Je vais essayer de voir chez les voisins, taper aux grilles et personne ne répond. Je lui dis, c'est pas possible, vu le bruit qu'il y a eu précédemment, que personne n'ait rien entendu. Je me dis, c'est pas possible. Du coup, je vois de la lumière dans une maison un peu plus loin et il y a un talus à monter, il faut passer au travers d'une barricade, je vais courir. Et là, je vois mon grand-père qui est mort sur la route et un peu plus loin, ma grand-mère. Là, je vais monter sur le talus et je vais m'évanouir. Avant d'arriver à cette maison où il y a de la lumière, je tape au volet, personne ne me répond. Je me dis, il faut qu'ils m'entendent. Je prends une jardinière et je tape sur le volet, sur les carreaux, enfin, je fais ce que je peux. Et je vois quelqu'un. Mais je dis, pourquoi il m'ouvre pas la fenêtre? Et du coup, là, je tombe inconscient encore une fois. Et ce qui me réveille, c'est que j'entends une voix, quelqu'un qui dit à quelqu'un d'autre, Jean-Jacques a tué tout le monde. Jean-Jacques est mon papa. Et donc, quand j'entends ça, je dis, c'est pas possible. Et j'entends que c'est la même voix qui parlait à ma sœur dire, où est ton frère? C'est la même voix qui parlait à ma sœur. Cette voix, je la reconnais. Cette voix, elle me semble très familière. Mais j'en ai pas encore le cœur net. Et je dis non, c'est pas papa, c'est Pascal. J'arrive à la hauteur de mon oncle et là, je suis face à face à cet homme et je lui dis, les yeux dans les yeux, que ce n'est pas mon père, que c'est lui qui l'a fait. À ce moment-là, mon oncle va m'inviter à me mettre en sécurité à l'intérieur de chez lui pour que je puisse m'allonger et attendre les secours. Ça va être interminable. Il n'y a que la douleur qui vient, la douleur physique et psychologique des moments horribles que j'ai vécu et entendu. Je vais me réveiller à l'hôpital et là, je vais me demander pourquoi j'ai cette cicatrice au ventre, pourquoi j'ai ce bandage. Et à ce moment, il y a ma grand-mère qui est là, qui est présente. Et pour me rassurer, elle me dit que mes parents vont arriver. Je me dis que les visions que j'ai, les flashbacks que j'ai sont un cauchemar et que je vais pouvoir retrouver mes parents, ma famille. Donc, il va falloir que j'attende, il me semble, me souvenir que c'est en fin de journée que les gendarmes viennent, frappent à ma porte et que je me rende à l'évidence de la réalité. Autrement, dans la journée, je vais avoir des moments où je vais m'endormir et dans mes rêves, tel qu'Anne Frank pouvait le décrire dans son roman, je vais imaginer que dans la maison, il y a des cachettes où mes parents ont pu se réfugier et je les retrouve et je suis heureux de les voir, et de les prendre dans mes bras et de se retrouver tous ensemble. Ou à d'autres moments, on est en vacances l'été précédent, et on est dans le Gard et dans ce camping où on rigole avec Caroline et ses amis et mon petit frère. Donc les gendarmes rentrent et là, ils me posent des questions. Et ce qui me vient tout de suite à l'idée, c'est de rendre hommage à mes parents. Et comme je l'appelais l'autre, cet apprenti charcutier, a voulu se dédouaner en disant que c'était mon papa qui avait commis cet acte horrible, de travailler sur mes souvenirs, d'être le plus précis, d'être le plus calme possible pour gagner en écoute et que cette personne puisse être en face de ses actes, qu'il ne puisse pas être considéré comme fou. Alors, après cette période de déni, il va y avoir un changement dans ma perception du monde qui m'entoure. Auparavant, le monde me semblait pastel, jaune, orangé. Après la nuit du 6 octobre, tout sera plutôt gris, noir. Même avec un côté morbide, comme si que l'hôpital ressemblait à une salle de funérarium, en fait, froid et vide. Vide, c'est exactement le sens, ou plutôt seul. J'ai l'impression d'être seul au monde et que le monde que je connaissais, le monde de mon enfance s'est effondré et que je me retrouve dans le monde des adultes, un monde que je connais pas très bien. Et d'ailleurs, les gens qui me rendent visite, ils sont bienveillants, ils m'apportent des cadeaux, des livres. Je vais même avoir mon premier jeu vidéo, voilà. Mais rien ne remplace ma famille. Maman, papa, Caroline, Fabrice et mes grands-parents. Bien sûr, j'ai ce sentiment d'être survivant, mais pourquoi je suis survivant? Pourquoi? Pourquoi? La question va durer longtemps. C'est la question pourquoi j'ai réussi à survivre? Pourquoi moi, qui suis multidis, qui n'était pas forcément le plus doué de la famille? Bien sûr que Fabrice méritait autant que moi, que Caroline méritait autant que moi, que mes parents méritaient autant que moi et que mes grands-parents méritaient autant que moi. J'ai le sentiment presque d'un sacrifice collectif et que en fait c'est grâce à eux que j'ai réussi à survivre et il va falloir du temps, des années pour pouvoir comprendre que je ne pouvais rien faire. À l'hôpital, il y a des gens qui vont venir me voir et je vais avoir la chance d'avoir une jeune femme qui vient me voir, une jeune femme que je connaissais et en fait elle m'embrasse sur la bouche. Une jeune femme que je connaissais qui était une fille d'employé des Nouvelles Galeries. Et je crois que quelques temps auparavant, j'ai essayé de sortir avec elle, ça s'était pas bien passé. Et du coup, là, elle vient, et puis on se dit bonjour, on échange, et puis elle m'embrasse sur la bouche. Et là, c'est une vraie bouffée d'air, en fait. Là, je me dis, ah oui, mais en fait, ah oui, mais la vie, il y a ça aussi. Pas que ça, mais il y a ça. L'amour, il y a cet échange entre un homme et une femme, le partage, et puis cette énergie, cette adrénaline que ça provoque en vous, cette chaleur qui monte et qui vous réveille et qui vous donne envie de courir. Ce baiser me ramène à la vie et me donne envie de faire du sport, ça me donne envie d'avancer dans mon parcours. Alors, j'étais en cinquième à cette époque-là, bon, je suis pas très en avant, j'ai quadruplé mon CP, j'ai 15 ans, et l'école, en fait, je me rends compte que je travaillais à l'école pour mes parents, pour leur montrer que je pouvais arriver à quelque chose. Et là, ça n'a plus de sens, en fait. Pour moi, ça n'a plus de sens. Alors, je vais m'orienter vers un apprentissage. Et je vais aller tout simplement à un endroit où papa allait se faire couper les cheveux. J'en ai pas conscience, ça, au départ. C'est qu'après, longtemps après, je vais me rendre compte que si je suis allé là, c'était parce que papa allait se faire couper les cheveux et que ça me rappelait, ça me rassurait, en gros. Et quand je suis allé là, bien sûr, j'étais accepté facilement, on me connaissait. Mais comme j'avais eu un autre stage qui s'était pas bien passé justement juste avant le 6 octobre, l'idée ça va être de parfaire, de travailler pour que ça se passe bien, parce que comme précédemment ça s'était pas bien passé. Dans un premier temps, je suis accueilli par ma grand-mère et là ça va être compliqué parce que chez ma grand-mère, malheureusement, elle a perdu son fils, ses belles-filles, ses petits-enfants et bien sûr mes grands-parents. Et chez elle, il y a tout, les photos de tout le monde et c'est un mausolée. Alors j'aime bien ma grand-mère, mais au bout d'un certain temps, c'est un peu lourd. C'est très lourd. Il y a encore une autre jeune femme, un jour, qui m'emmène faire un petit tour pour changer les idées et qui m'embrasse encore au détour d'un... Je me rends compte que j'ai succès auprès des femmes incroyables. Je comprends pas trop pourquoi, mais bon, ça fait du bien. Et franchement, je les en remercie. Au bout d'un mois et demi, je vais aller chez mon oncle et ma tante à la campagne. Et là, je vais me mettre progressivement, déjà passer mon code. Ensuite, je vais aller voir la conduite. Ensuite, je vais faire de l'équitation. Ça va beaucoup me plaire, ça. Je suis dans l'action. Je vais courir, je vais faire des semi-marathons et des petits cross inter-villages. J'ai une certaine aptitude pour courir. D'ailleurs, quand j'étais au collège, il y avait une surveillante qui m'appelait Forrest Gump du fait de mes difficultés cognitives et de ma faculté sportive et quelque part la chance que j'avais par rapport au fait d'avoir survécu à la nuit du 6 octobre. À partir de juillet 84, je vais rentrer en apprentissage et je vais m'investir complètement dans mon travail à 200%. L'hyperactivité, éviter les flashbacks. Parce que j'ai beaucoup de flashbacks qui reviennent pendant la nuit, mais des fois, les jours sont pires que les nuits. Alors, cette hyperactivité permet de repousser un temps ces flashbacks. Dans mon apprentissage de la coiffure, après, quand je vais arriver à couper les cheveux des gens, je vais avoir des échanges avec les clients et je vais me rappeler que mon papa m'avait éveillé à la culture, à la musique. Ça va me permettre d'échanger avec ces personnes et en même temps, en retour, eux, je vais vraiment avoir une communication et ça va être vraiment quelque chose d'épanouissant, de très épanouissant. Et de ce fait, je vais avoir vraiment envie de m'investir pleinement dans ça. Donc, je vais obtenir mon CAP en coiffure. Par la suite, je peux passer un brevet de maîtrise et je suis content et pour une fois, j'ai de la réussite. Là où j'étais en échec scolaire, là, j'ai de la réussite. Malgré tout, mon maître d'apprentissage ne comprend pas que j'ai des moments où je suis performant et l'autre, moi, je vais rencontrer Maître Garnier, Christian Garnier, mon avocat, et en 1989, il y aura un procès, le procès de Pascal Dolic, qui aura tenté d'être disculpé pour cause de folie. Donc, il y a vraiment un enjeu au moment de la semaine du procès. Je suis à l'armée, j'ai 21 ans, et mon avocat m'a préparé en amont déjà. Donc, voilà. Cet avocat, c'était un peu un challenge pour lui quand je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré donc dans les mois qui ont suivi les faits. J'étais mineur et j'étais le premier mineur qu'il avait à s'occuper. C'est la première fois qu'il s'occupait de la défense. J'appréhende le procès parce que je sais que je vais rencontrer l'assassin de mes parents. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Intérieurement, je suis en rage, mais j'arrive à prendre sur moi. Je pense que c'est mon côté sportif. J'arrive à ne pas montrer qu'en fait, intérieurement, moi, je bouillonne. J'aurais envie, telle une bête sauvage, de le dévorer, de le détruire. Hein, voilà. Ma seule vengeance à ce moment-là sera de prouver que mes parents, que mon père n'était pas coupable et de montrer que cette personne a prémédité. Et surtout l'horreur dans laquelle ça s'est déroulé. Quand je vais passer à la barre, mon seul réflexe, ce sera d'essayer de trouver dans les yeux de l'assassin et de voir qui il est. Voilà. Est-ce qu'il a le courage de me regarder dans les yeux? Il va me fuir et il n'y aura pas l'échange. Donc, je vais essayer d'être le plus précis possible pour montrer qu'il est coupable et de lui montrer l'horreur de ce qu'il a fait, hein, de le mettre en face de ce qu'il a fait. D'ailleurs, à la fin, je vais me permettre de prendre la parole après les questions de la cour pour dire mais qui est l'homme qui a pu assassiner des femmes et un enfant? Voilà, il n'y a pas de gloire à être un homme si on fait ça, franchement. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu sortir un peu cette rage. J'avais pas cette haine, mais cette rage que j'avais en moi. Je reconnais qu'au départ, j'ai eu un sentiment de vouloir me venger. Mais je me suis rendu compte très vite que ça me rongeait plutôt qu'autre chose. Et que c'était pas du tout dans mon... Je suis pas fait comme ça. Mes parents m'ont élevé dans une certaine humanité. Mon papa m'a appris qui était Martin Luther King. Enfin, accepter les différences des autres. Et du fait de mon handicap, j'ai conscience du respect des autres et de la différence et en quoi ça peut faire mal. Après le procès, je vais être déçu par le verdict. Il prend 20 ans, moins la conditionnelle. De ce fait, je vais être déçu. Mais Christian Garnier va me dire, Jean-Yves, la justice de la République a été donnée, une sanction a été faite. Je vais admettre cela. Je vais admettre que voilà, la loi de la République a été mise en place et qu'une sanction a été donnée. Mais quand même, il y a une rage quand même qui est en moi. L'idée, c'est de sortir de ce côté de victime et d'avancer. J'aurai le projet, de pourquoi pas m'installer à mon compte. Je vais essayer de faire pas mal de choses. Et puis, je vais rencontrer quelques années plus tard ma future femme et on va fonder une famille. Je vais protéger mes enfants et je vais raconter à mes enfants en grandissant quand Camille aura 6 ans, je vais lui dire que mes parents sont morts dans un accident de voiture pour la protéger. Tel Roberto Benigni dans La vie est belle. Il y a tellement d'horreur. Même moi, je suis horrifié par tout ça quand je vois les flashbacks et tout ça. Je dis, comment je peux raconter ça à mes enfants? Comment je peux raconter ça? Avec ma femme, je n'ose pas lui dire toutes les choses. Je lui dis sur les grandes lignes, juste ce qu'on doit savoir. Depuis que je suis tout petit, j'avais déjà mis une certaine résilience par rapport à mon côté 10. Quand j'allais dans les champs avec mon grand-père, il y avait un endroit où on passait dans une forêt. Ça faisait comme un tunnel. On passait là en dessous et après on sortait dans une clairière. Et là, je m'imaginais un monde avec des elfes, avec des choses incroyables. Voilà, je m'imaginais un tas de choses. Ça m'a permis de m'évader de mon échec scolaire. Après la disparition de mes parents, je ne serais plus dans ce monde imaginaire, mais ce que m'ont inculqué mes grands-parents, le sens du travail, le sens de l'effort, et au travers du sport aussi, les valeurs sportives, ça va me permettre de, au plus profond de moi-même d'avoir cette chaleur, de me sentir quelque part presque invincible, tel Hercule. J'avais l'impression comme ça d'être assez résistant et les victoires que je vais avoir au travers des épreuves sportives ou professionnelles vont aller dans ce sens. En plus, comme je vais retrouver au travers de la famille de ma femme une cellule familiale, ça va vraiment me faire du bien. Voilà, ça reposer une base, un socle sur quelque chose, ça va renforcer ce sentiment d'appartenir à un groupe, d'aimer. Et puis, quand mes filles vont grandir, je vais essayer de leur retransmettre ce que mon papa m'a transmis. Les années vont avancer et puis, dans cette famille, j'ai voulu être un père parfait. Je vais me perdre. Et moi qui étais un battant, moi qui étais quelqu'un qui avançait, là, je vais perdre pied. Et malheureusement, la seule chose qui va me raccrocher à la vie, c'est un jour, je vais rendre visite à une voisine qui est commerçante et elle va m'embrasser et ça va me faire du bien. Ça va me rappeler quand j'étais à l'hôpital. Et là, je me dis, si je fais ça, tout ce que je croyais va s'effondrer. Est-ce que je peux faire ça à mes filles? Est-ce que je peux faire ça à ma femme? Mais je suis tellement mal. Parce que, en fait, je me rends compte que j'étais devenu le colosse au pied d'argile. Que le fait que j'ai jamais été voir un psychiatre ou un psychologue, le poids de ce passé que je traîne sur mon dos. Et j'ai peur d'être écrasé par ce poids. Voilà, le seul moyen que je vais trouver, c'est cela. J'ai deux options. Soit je mets fin à mes jours, soit, familièrement, on dit se pendre au cou d'une femme. Donc, je vais prendre cette solution-là et je me rappelle avoir passé un lundi, c'est mon jour de repos, à pleurer. C'est pas de mon habitude, ça, à pleurer. J'ai pas réussi à pleurer après la disparition de mes parents. Je passe cette journée à pleurer parce que je me rends compte que je vais trahir ma famille pour qui je me suis battu. Donc, je vais être dans l'adultère. C'est dramatique, mais je me dis qu'il faut être franc et assumer ses responsabilités. Et ça me semble important. Alors, je vais me séparer de mon ex-femme. Ça va être compliqué parce que j'avais l'habitude de conduire Camille à l'école, et mon fille aussi. Et là, ça va vraiment être compliqué. C'est un divorce difficile. Je vais partir à Paris pour me prouver aussi que je peux réussir ailleurs. Et j'ai besoin de prendre l'air. J'ai besoin de prendre l'air par rapport à mon passé. Et j'ai besoin de prendre l'air par rapport à mon divorce. Je vais vouloir mettre la maison de mes parents en vente pour tourner la page. Sauf que il y a des acheteurs qui vont venir me voir, sont intéressés par la maison. Je dis, ouais, c'est bien. Ils me disent, écoutez, on est intéressé, mais on voulait savoir, c'est vous, donc vous êtes monsieur Labrousse. Il dit, mais il y a 30 ans, vous n'avez pas vécu quelque chose là? Je dis, oui, j'ai perdu mes parents il y a 30 ans, bien sûr. Mais je leur dis, je comprends pas quel rapport avec la négociation de la vente. Et oui, mais de ce fait, vous pouvez pas la vendre au même prix. Alors là, je suis outré parce que pour moi, c'est un affront vis-à-vis de mes parents. Je suis outré et j'aurais dit, écoutez, on va faire une chose très simple. Du vous à moi, les yeux dans les yeux. La maison, je vais la reprendre pour moi. Je vais faire les travaux. Et vous, je vous remercie d'être venu. Il n'y a pas de suite. C'est pas possible. Je suis tellement énervé, mais je vais rester calme. Ça sert à rien. Donc, ce que j'ai en même temps me fait peur. Depuis 30 ans, je suis pas revenu dans la maison. Elle était louée. Je suis venu de temps à autre pour des états des lieux ou choses. Mais à chaque fois, les flashbacks, ils sont toujours là, jour et nuit. Mais quand je m'approche de la maison, c'est encore pire. Ça ravive, ça prend la force. Et c'est vraiment très compliqué. Donc, je vais m'engager dans les travaux qui vont durer un an environ pour casser. Peut-être que c'est une façon de dire, là, j'essaie d'affronter mon destin et essayer de passer à autre chose. Inconsciemment, c'est peut-être ça, essayer de passer à autre chose. Je suis avec une compagne à l'époque. On a le projet d'être ensemble, ça me rassure. Je dis, tiens, je veux pas être tout seul. Et au mois de septembre, le projet ne lui convient plus parce que il y a une de ses amies qui lui a montré des brochures de journaux de 1983 et du 6 octobre. Et de ce fait, elle ne peut pas venir vivre avec ses enfants. Je me retrouve donc au mois d'octobre de cette année-là, en 2015, à la maison tout seul. Là, c'est la descente aux enfers. Dépression. Et puis, je peux plus aller travailler. Et là, je me dis, il faut que je me fasse aider. C'est pas possible. Je me reconnais plus. Moi qui étais battant, là, je deviens tout mou. Et ça me convient pas du tout. Et au bout de quelques mois, je vais voir du progrès. Je vais comprendre pourquoi j'arrive pas à être heureux. Je vais comprendre que j'ai peut-être une névrose de l'enfant qui fait que, telle une éponge, je voulais toujours absorber l'amour de, voilà, et que j'avais ce sentiment de mal-être et que je reproduirais une sorte de schéma. Et en allant voir le psychiatre, j'ai voulu casser ce schéma. Et arrivé à ce moment-là où, un soir de juin, je pense, je vais au restaurant et Camille, elle me dit, papa, j'aimerais bien que tu me parles de ce qui s'est passé le 6 octobre. Et je me dis, oui. Et je me lance. Je vais essayer de la protéger quand même. Mais je me rends pas compte que dans le non-verbal, dans mon attitude, dans mon regard, elle va voir l'horreur de ce qui s'est passé la nuit et qu'elle va être terrifiée elle-même. Comme dans les films d'Hitchcock où ce qui n'est pas dit peut être fantasmé et plus dur que la vérité. Je vais démissionner de mon travail de Paris, je vais faire une formation de formateur pour adultes. L'idée de départ, c'est d'être formateur en coiffure. Je reconnais que je me lance un peu comme ça, sans avoir réfléchi plus que ça. Je me rends compte que j'étais coiffeur homme et qu'en fait, je ne suis pas si polyvalent pour devenir formateur en coiffure. Mais le fait des stages va m'amener à rencontrer un domaine que je ne connais pas, qui est l'insertion professionnelle. Je vais faire mon premier stage à la maison de la ville de Creil et j'ai rencontré des gens qui sont issus de l'immigration, beaucoup des femmes. Et du coup, avec la formatrice, je leur parle de qu'est-ce que la citoyenneté, du droit des femmes. Et à un moment donné, je leur parle d'une femme qui s'appelle Rosa Parks. Et ça leur plaît. Je leur dis, si vous voulez, je peux faire une dernière séance sur Rosa Parks. Et dans cette séance sur Rosa Parks, je leur parle de Martin Luther King. Et là, j'ai pas vu le truc venir. L'émotion me prend et je les remercie à la fin de m'avoir écouté et que ça me fait plaisir de leur échanger ce matin Luther King parce que la dernière fois qu'il y a quelqu'un qui m'en avait parlé, eh ben, c'était mon papa dans le bureau et que ça me faisait du bien de lui rendre hommage. Je vais devenir formateur pour adultes dans l'insertion professionnelle et c'est vrai que juste avant cette étape dans ma période de chômage, puisque j'ai du temps, un soir que je regardais la 5 et l'émission La Grande Librairie, je me disais, puisque les gens parle de leur parcours, de leurs histoires. J'envoie un SMS à Camille, je lui dis, Camille, et si on écrivait un livre? Et si maintenant on écrivait un livre, puisque j'ai du temps? Camille, au départ, c'est compliqué, c'est passé lourd. Elle se dit, comment je vais faire pour supporter le poids du passé que papa a porté sur ses épaules? Est-ce que j'aurai la carrure de la porter? Et de ce fait, elle se rapproche de sa copine de lycée, Constance Bostoen, qui est devenue journaliste dans une radio. Et à deux, elles vont se renseigner sur la faisabilité de parler d'une histoire, comment on peut en parler, de ce qu'on ne peut pas parler. En deux mois, elles vont trouver un éditeur. Et en sept mois, on va écrire ce livre, L'écho des ombres, à raison d'un rendez-vous en visio une fois par semaine, qui va durer environ 3 heures à chaque fois. Donc c'est compliqué, je vais avoir besoin de retourner voir un psychologue pour pouvoir continuer mon introspection. Donc l'idée de départ, c'est juste transmettre mon histoire à Camille, finir la transmettre, et qu'elle puisse avoir ancré ses racines et qu'elle puisse s'épanouir également dans sa vie d'adulte. Et je me rends compte au fur et à mesure des soirées du côté positif de ce livre, du côté où on peut aider les gens qui ont un handicap, du côté où on peut aider les gens qui ont vécu un traumatisme d'agression, celle de crime, avancer vers l'avant, à se rendre compte que tout est possible. En fait, comme devraient nous dire nos parents quand on est petit, au lieu de nous dire « fais pas ceci, fais pas cela, tu ne devrais pas », de nous dire « bah toi, vas-y, tout est possible. T'as rien à perdre. Sois dans l'action. Ce qui compte, c'est comment tu fais l'action. » Je me suis longtemps demandé si mes parents... Mais qu'est-ce qui serait passé si j'ai pas été orphelin? Voilà, qu'est-ce que je serais devenu? J'ai eu la chance d'être accompagné, de rencontrer des gens formidables qui m'ont aidé à croire en moi, plus ou moins à leur façon. Hein. Et puis, d'aller chercher cette force que m'ont légué mes grands-parents, cette force qui peut être quelque part innée, hein, mais que j'ai mis en place inconsciemment. Et ça m'a permis de me raccrocher à quelque chose et de me battre et de me dire que oui, c'est possible. J'ai toujours été d'un tempérament optimiste. Voilà, on me l'a reproché beaucoup d'être un rêveur, bien sûr. Mais en fait, ce côté rêveur, ce côté optimiste, ben, c'est ce qui me fait croire en l'humanité. Aussi, j'ai eu une éducation religieuse, j'étais catholique. Et c'est vrai que ça va m'aider aussi, ça. Bon, après la disparition de mes parents, je vais rejeter le côté religion. Je vais me dire que si mes parents sont partis, ben, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Mais à un moment donné, je vais raccrocher à ça aussi. Ça va me donner aussi de la force, la profondeur, mais aussi le sens du partage, de l'excuse aussi et du pardon. J'ai une responsabilité de rendre hommage à mes parents, de leur montrer qu'ils ne sont pas morts pour rien. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand les gens qui voulaient négocier la maison en raison de l'histoire de la disparition de mes parents, c'est notamment pour rendre hommage, mais aussi inconsciemment, c'était aussi pour finir cette maison que papa n'avait pas eu le temps de finir pour cause de moyens, puis malheureusement de temps. Et j'ai eu cette satisfaction en allant me recueillir sur la tombe de mes parents, en toute humilité, de leur dire que j'avais réussi à prolonger ce qu'ils avaient commencé, et à refonder une famille, et à redonner vie au travers de la naissance d'enfants dans cette maison. Que ça ne reste pas sur un côté négatif, mais ça s'est fait malgré moi, je reconnais. Mais à chaque fois, je me suis adapté. Le bonheur, c'est pas quelque chose d'inné. Il m'a fallu du temps pour le comprendre. Le bonheur, c'est à vous, à moi de le concevoir. Et le bonheur simple, immatériel, c'est ce qui permet d'être bien dans l'instant présent. Et c'est ce qui permet, au travers d'un bonjour, d'un regard, d'un rayon de soleil, d'un animal sauvage qui va traverser devant vous, des choses simples de la nature, de la vie. En tout cas, c'est ce que moi, je le ressens. C'est ce qui fait que si vous avez une journée qui se passe pas bien, eh bien, de pouvoir puiser dans cette énergie, dans cette source de bonheur, pour avancer, pour dire, ben, la vie est belle. Ou dans l'action, quand, en tant que formateur, je vois que j'arrive à révéler chez les gens des choses qu'ils n'avaient pas perçues, à se rendre compte de leur potentiel, et de voir leur visage s'illuminer, et oui, et là, je suis l'homme le plus heureux. Ou voir mes enfants ou ma compagne heureuse ou heureux. Oui, bien sûr, les enfants qui jouent ensemble, bien sûr. Voilà, j'ai besoin de cette humanitude. Et c'est ce qui me fait avancer. Les couleurs pastels sont revenues, grâce à toutes les belles rencontres que j'ai faites, à cette hyperactivité. Oui, c'est parti quand je suis rentré en apprentissage progressivement, c'est disparu. L'enrichissement a permis d'évacuer cette noirceur qui était en moi. Aujourd'hui, je me sens combatif, je me sens épanoui. Et comme je le dirais, croyez en vous et tout est possible.
Cet entretien a été réalisé par Clémentine Delagrange et monté par Stéphane Bidard. Vous avez aimé les rescapés ? Aidez-nous à nous faire connaître en nous laissant plein d'étoiles et de commentaires.